Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Le 10 novembre 1938, Mustafa Kemal Atatürk, le père de la Turquie moderne, s'éteignait à Istanbul il y a très exactement 78 ans. Pour cet anniversaire, le président actuel, Recep Tayyip Erdogan, ne pouvait pas faire moins que lui rendre hommage, ce qu'il a fait ce matin, mais avec des pincettes et en se bouchant le nez. Nous nous opposerons, a dit le chef de l'État turc, à ceux qui tentent de limiter l'histoire de notre État et de notre nation à 90 ans. Nous devons prendre toutes sortes de mesures, y compris réexaminer les livres scolaires dès l'école primaire. Autrement dit, la Turquie n'a pas attendu Atatürk pour être grande et la République, fondée en 1923, n'est qu'une étape de son histoire passée et à venir. Peut-être fait-elle d'ailleurs déjà partie du passé. On a enterré la République, écrivait ainsi il y a quelques jours l'éditorialiste du journal Hurriyet, après qu'Erdogan eut annoncé son intention de rétablir la peine de mort dans le pays. Depuis le coup d'État manqué de juillet dernier, la répression donne le vertige. Plus de 33 000 personnes arrêtées, 150 000 fonctionnaires démis de leurs fonctions, des médias fermés, des associations dissoutes, des députés interpellés. On ne voit plus très bien aujourd'hui ce qui empêcherait de qualifier la Turquie de dictature. Retour aux années sombres, sauf que cette fois-ci, ce ne sont pas les militaires qui détiennent le pouvoir absolu. Alors, démocratie turque, fin de cycle. C'est la question que nous allons poser ce soir à trois invités. Dorothée Schmidt, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse à l'IFRI, vous y êtes responsable du programme Turquie contemporaine. Vous avez publié aux éditions du CNRS, c'était en 2011, La Turquie au Moyen-Orient. Et vous avez un ouvrage à paraître d'ici quelques semaines aux éditions Taillandier, La Turquie en 100 questions. Pour discuter avec vous, Ahmet İnsel, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, politologue, vous avez publié l'an dernier aux éditions La Découverte, La Nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire. On verra si depuis cette dérive autoritaire s'est transformée en autre chose, peut-être quelque chose de plus brutal et disons de plus dictatorial. Ce sera un des objets évidemment de la discussion de ce soir. Et puis notre troisième invité se trouve en duplex du Centre de presse international à Bruxelles. Il s'agit de Marc Pierini. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien ambassadeur de l'Union européenne en Turquie. Vous étiez en poste entre 2006 et 2011. Et vous avez publié chez Actes Sud en 2013 « Où va la Turquie ?» carnet d'un observateur européen. Alors, je voudrais qu'on revienne avec vous trois sur cet hommage très particulier qu'a donc rendu le président Erdogan à Atatürk pour l'anniversaire de sa mort ce matin. Est-ce que quand Erdogan dit donc « nous nous opposerons à ceux qui tentent de limiter l'histoire de notre État et de notre nation à 90 ans », c'est-à-dire qu'il fait référence à l'anniversaire de la proclamation de la République turque, est-ce que c'est une façon pour lui, Ahmet İnsel, de dire « voilà, finissons-en avec Atatürk, cet héritage-là est trop pesant et passons à autre chose. »
C'est un peu mettre en sourdine la place qu'occupe Mustafa Kemal Atatürk et cette période de la République dans l'histoire actuelle et dans la mémoire et surtout dans l'histoire officielle. Ce n'est pas, je ne pense pas que Tayyip Erdogan voudrait mettre dans le placard toute la mémoire que représente Mustafa Kemal Atatürk parce qu'il reste quand même très populaire dans la représentation. Mais deux choses. D'abord, lui, il voudrait que l'histoire, effectivement, ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est très important, parce que depuis à peu près quelques mois, il a commencé à parler du traité de Lausanne comme non pas une victoire, mais presque un traité qu'on devrait revenir.
Alors, il faut rappeler le traité de Lausanne. Hein.
Alors, traité de Lausanne, c'est le fameux traité qui a fermé la Première Guerre mondiale pour la Turquie, qui a fondé la République dans ses frontières actuelles. Et c'est le traité fondateur de la République. Et dans l'histoire officielle, le traité de Lausanne est une grande victoire. La Turquie devient indépendante. Les alliés qui étaient les forces occupantes quittent la Turquie, etc. Or, pour l'histoire qui était toujours d'une manière souterraine entretenue par les conservateurs musulmans en Turquie, mais depuis toujours, c'est que ce traité a été un traité inique parce que nous avons perdu des immenses territoires. Par exemple, essentiellement Moussoul et Kirkouk, etc., etc. Et deuxièmement, pour les conservateurs musulmans, Mustafa Kemal est un militaire qui a libéré la Turquie des chrétiens, de désoccupation chrétienne, mais il préfère jamais utiliser son nom qui a été adopté en 1945 quand le patronyme a été obligatoire, Atatürk, c'est-à-dire le père des Turcs.
Donc il ne s'agit pas d'effacer de la mémoire du pays l'héritage d'Atatürk, Dorothée Schmidt, mais on pourrait dire que c'est une façon de le relativiser et peut-être aussi de relativiser ce que représente la République dans la longue histoire du peuple turc.
Oui, c'est une manière de s'approprier l'histoire. En fait, depuis le coup d'État raté du 15 juillet, on a un vrai sujet sur la reconstruction de l'histoire en Turquie, puisque Tayyip Erdogan a le sentiment qu'il est en train d'écrire l'histoire en ce moment. Le coup d'État rentre dans les manuels scolaires immédiatement. L'histoire immédiate du coup d'État est écrite dans des petites productions à destination de l'étranger pour bien expliquer ce qui est en train de se produire. Donc il s'agit de démontrer que tout ce qu'a fait Erdogan depuis qu'il est au pouvoir, y compris les péripéties les plus épouvantables par lesquelles est passé le régime, sont plus importantes que des épisodes traumatiques passés très importants pour la Turquie. Et ensuite, évidemment, on a dans cette relativisation dont vient de parler Ahmet du traité de Lausanne, on a l'effacement de la frontière entre l'Empire ottoman et la Turquie. Mais là, finalement, on est dans un contresens total, parce que la Turquie n'existait pas avant le traité de Lausanne. Le nationalisme turc, c'est quelque chose qui a commencé à exister au début du XXe siècle, très peu de temps avant la Première Guerre mondiale. Et donc là, on est dans des contresens historiques parce qu'en fait, on mélange tous les niveaux d'analyse. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi ce discours, puisque vous parliez des commentaires aujourd'hui de Tayyip Erdogan, c'est cette volonté d'effacer les frontières en expliquant que finalement, il serait légitime de rétablir la continuité entre le territoire turc et un certain nombre d'autres territoires qui ont appartenu à la Turquie. Ce qui n'est pas vrai, c'était pas la Turquie.
Il a dit, nous ne pouvons pas être prisonniers de 780 000 km², c'est-à-dire la superficie de la Turquie actuelle. Nos frontières physiques sont une chose et nos frontières de cœur une toute autre chose. Et dans les frontières de cœur, il y a nos frères, là je reprends à nouveau ces termes, de Crimée, du Caucase, d'Alep, de Mossoul. Cette volonté de réécrire l'histoire, Marc Pierini, c'est aussi ce qui saute aux yeux aujourd'hui dans la façon dont Tayyip Erdogan essaie de essayer de gouverner la Turquie et essayer aussi peut-être de capitaliser sur ce coup d'État manqué du mois de juillet.
Oui, je crois qu'il faut ramener tout cela à deux considérations politiques fondamentales. La première, c'est que le projet sociétal de M. Erdogan est fondamentalement différent de celui de Mustafa Kemal. Il souhaite bâtir, et il le dit très ouvertement, une société religieuse conservatrice. Les femmes doivent avoir 3 enfants. On doit enseigner la religion, on crée des ponts entre les écoles d'imams et l'université qui n'existait pas avant, entre les écoles d'imams et les écoles militaires, etc., etc. Donc il y a un projet de société qui, jusqu'à 2013, était commun à l'AKP et au mouvement Gulen, qui depuis ne l'est plus, mais il est toujours là et il est fondamentalement représentatif d'une révolution contre-kémaliste, sans toutefois abandonner les symboles, parce que dans le kémalisme, il y a aussi le nationalisme, et c'est très important.
Est-ce que vous pourriez parler de contre-révolution ?
Ben, parce que Kemal a fait une révolution culturelle, il faut bien s'en rappeler. On a changé les noms, on a changé l'alphabet, on a changé les codes vestimentaires et les codes culturels. Donc c'était une vraie révolution par rapport à la période ottomane, mais ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui ouvertement contesté par le président turc. L'autre élément, c'est que le président turc veut absolument arriver à un régime présidentiel absolu, qui n'est pas la constitution actuelle, donc il faut réviser la constitution, il faut donc faire un référendum, et pour ce faire, il faut les votes nationalistes, parce que l'AKP n'y arrivera pas toute seule. D'où toute une démarche qui consiste à diaboliser les autres, c'est-à-dire les Kurdes, maintenant le Parti social-démocrate dans la foulée, les journalistes, les universitaires, etc., etc., sous le couvert des mesures correctives du coup d'État. Mais fondamentalement, le coup d'État, ce n'est jamais, comme a dit le président lui-même au matin du 16 juillet, qu'un don de Dieu qui va nous permettre de changer les paramètres.
Alors, il y a beaucoup de commémorations en Turquie à cette période de l'année, puisque outre l'anniversaire de la disparition d'Atatürk, il y a aussi les cérémonies commémoratives pour rappeler l'anniversaire de la création de la République, justement turque. Ça, c'était le 29 octobre. Et ce sont des cérémonies qui ont commencé au palais présidentiel à Ankara par la lecture du Coran assortie de chants religieux. Est-ce que ça veut dire, Ahmet İnsel, qu'aujourd'hui, alors si la Turquie est encore une république, que le projet d'Erdogan est un projet anti-républicain? En tout cas, est-ce que lui, c'est un anti-républicain, ou bien est-ce qu'on peut quand même le définir encore aujourd'hui comme un républicain?
Ça dépend de ce que vous mettez derrière le terme république. Évidemment, il est républicain, dans le sens où il ne projette pas le retour à la monarchie ni au sultanat, mais c'est un républicain conservateur, c'est un républicain islamo-conservateur. Il me rappelle un peu les républicains américains qui, dans certaines, quand il était avec le gouvernement Bush, je crois, un des ministres de la justice ouvrait les réunions avec la lecture du Bible. Aux États-Unis. Je crois que il faut bien définir ce que c'est la République. La République kémaliste est en train de se terminer ou quasiment finie.
C'est notamment la laïcité.
La laïcité, l'autoritarisme laïque et moderniste. Maintenant, nous rentrons dans une République erdoaniste, probablement. Je ne sais pas si on va l'appeler comme ça dans le futur, mais du kémalisme, on passe à erdoanisme, avec des continuités, des ruptures. La continuité, c'est l'autoritarisme. La rupture, c'est l'approche de la laïcité. À la place du principe laïcité qui était identitaire, on met en place une identité islamo-conservateur. Et la continuité, c'est le nationalisme. La République kémaliste était nationaliste, la République erdoganiste est nationaliste. Donc le changement est essentiellement, ce que disait Marc Pierny, est essentiellement sur une guerre culturelle. Ce n'est pas sur les modalités direct politique, autoritarisme et nationalisme sont là. En revanche, les référents culturels, civilisationnels changent fondamentalement.
Une république erdoganiste, c'est bien ça ce que vous disiez, Ahmet İnsel, Dorothée Schmidt?
Oui, effectivement, dans la continuité, il y a aussi le culte de la personnalité. Alors évidemment, Atatürk n'a pas connu lui-même son propre culte de la personnalité de son vivant, puisqu'il a été quand même établi, renforcé très fortement, notamment depuis les années 80. Et là, on a quand même un Tayyip Erdogan qui est en train d'établir de son vivant son propre culte de la personnalité. La Turquie, c'est quand même un pays où quand on prend le ferry pour traverser la mer de Marmara, le ferry s'appelle Recep Tayyip Erdogan, où les stades de foot en province s'appellent Recep Tayyip Erdogan. Donc c'est quand même un pays où effectivement Erdogan est assez omniprésent et veut laisser l'empreinte de son nom, de sa personne. Et il donne pour ça beaucoup de sa personne. C'est aussi sa grande qualité, son charisme, c'est qu'il se dépense sans compter pour sa république erdoganiste.
Est-ce qu'il n'y a pas finalement un terme qui serait beaucoup plus adapté aujourd'hui pour définir ce qu'est la Turquie et ce qu'est celui qui la préside, c'est-à-dire une dictature tout simplement, Dorothée Schmidt?
Oui, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de dictature? On a le sentiment que ça évolue vers la dictature, mais ça n'a pas uniquement à voir avec le pouvoir personnel, mais ça a beaucoup à voir avec le pouvoir personnel, le non-droit. Ça, c'est très important. Alors, on était déjà dans un pays où l'usage du droit a toujours été, pour moi, un peu un mystère. Je veux dire que sur toutes les législations, notamment la question de la loi antiterroriste et de la façon dont elle est appliquée, c'est vrai qu'on avait toujours des arguties juridiques un peu compliquées. Mais là, depuis qu'on est en état d'urgence, en réalité, il n'y a plus de droit du tout.
C'est l'arbitraire.
Voilà, c'est l'arbitraire.
Ne serait-ce que, par exemple, les 110 000 personnes licenciées de la fonction publique par décision administrative sans argument, sans aucune décision judiciaire, c'est vraiment le non-droit par excellence. Et l'arbitraire, effectivement, sous couvert, toujours, mais c'est toujours comme ça, sous couvert...
Enfin, avec un discours de l'égalité.
D'égalité.
Et notamment, quelque chose qui agace beaucoup les Français, c'est la comparaison entre l'état d'urgence en Turquie et l'état d'urgence en France.
Il utilise beaucoup Tayyip Erdogan, cet argument, comme quoi ils ont prolongé pendant une année l'état d'urgence, pourquoi pas nous?
Marc Pierani.
Moi, je dirais que... Bien sûr, l'état de droit est en train de s'émietter. Il va peut-être disparaître complètement et l'extension de la purge au-delà des gulenistes vers les Kurdes et puis à peu près tout le monde maintenant, ça en est la preuve. Par contre, je ne dirais pas qu'on est dans une dictature parce qu'il faut quand même pas oublier qu'en août 2014, Erdogan a été élu président de la République au suffrage universel, le premier dans l'histoire turque, avec 52% des voix. Donc il est là parce que une majorité de citoyens de Turquie l'ont voulu.
Enfin, ensuite, on se souvient d'autres dirigeants de pays par le passé qui, bien qu'ayant été élus par le suffrage universel, sont devenus des dictateurs.
Bien sûr, c'est ce qui s'est passé après qui est important.
Il suffit de se maintenir au pouvoir par tous les moyens pour devenir un dictateur, et là on n'en est pas très loin.
Alors, ce qui est important, c'est ce qui s'est passé l'année dernière, parce que pour la première fois depuis l'arrivée de l'AKP au pouvoir en 2002, les élections du 7 juin 2015 ont donné un paysage politique complètement différent qui, logiquement, constitutionnellement, aurait dû amener à une coalition. Et qui, en plus, a amené le parti kurde, le HDP, en troisième position devant les nationalistes. C'était proprement insupportable et donc le président de la République a fait tout ce qu'il fallait pour faire capoter les discussions sur la coalition. Là-dessus, le PKK et le gouvernement ont fait une escalade violence-répression, quelque chose de très classique. Et on refait l'élection le 1er novembre. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que 4,5 millions de voix se sont déplacées vers l'AKP. Donc il y a des phénomènes qui ne ressemblent pas du tout à ce que nous, Européens, considérant comme la démocratie libérale, bien entendu.
Ahmet Insel, j'ai vu, alors je ne sais plus exactement dans quel journal reprenait vos propos, dans lequel vous disiez, à propos justement de l'évolution du régime turc, si ce n'est pas encore du fascisme, c'est déjà une dictature fascisante.
Oui.
Qui rappelle celle de l'entre-deux-guerres.
Oui.
Celle au pluriel. Hein, donc, voilà.
C'est ça. C'est une dictature fascisante au sens où, comme disait Marc Pierny, ce qui m'inquiète, c'est que jusque-là, Tayyip Erdogan arrivait et plutôt son parti, c'est pas simplement lui, hein, son parti, le parti Justice et Développement, restait au pouvoir avec des élections qui étaient plus ou moins propres. Hein. Sincèrement, en Turquie, on peut critiquer beaucoup de choses, mais les élections représentent des vrais choix des citoyens parce que la participation est très élevée, très très élevée, et il n'y a pas de fraude significative. Il y a probablement des fraudes marginaux, mais pas de significatif. Mais désormais, la manière dont Tayyip Erdogan a empêché la formation d'une coalition gouvernementale après 12 ans d'exercice du pouvoir, et comment il a présenté devant l'opinion publique la situation en termes « moi » ou « le chaos », dans les termes ouvertement « moi » et « le chaos » et mettant en scène « le chaos », concrètement, et avec des acteurs qui jouent le jeu du chaos, évidemment le PKK, le Daesh, etc. Là, ce qui m'inquiète, c'est que désormais, je ne suis pas sûr que les élections seront fiables.
Cela dit, Ahmet Insel, ces élections seraient fiables et libres, aujourd'hui, qui serait en mesure d'incarner une véritable opposition, une véritable alternative à Erdogan? Qu'est-ce qui reste des forces d'opposition aujourd'hui en Turquie?
Il y reste le Parti social-démocrate coincé dans le 25% de voix qui ne devient jamais 30, mais qui ne passe jamais en dessous de 20. Et le parti kurde, qui représente 10 à 15% des voix, est totalement ébranlé, 11 maintenant de ces députés sont en prison. Et puis, l'extrême droite nationaliste qui représente 15%, qui est en alliance objective avec le pouvoir. Effectivement, là, nous sommes dans une situation où on rentre dans la logique d'un parti dominant, hégémonique. Le terme de démocrature, on utilise beaucoup, hein, démocratie et dictature.
Démocratie et autoritaire.
Démocratie autoritaire, mélange de démocratie et dictature. Évidemment, je pense que la balance va beaucoup plus du côté de la dictature dans ce terme, désormais, que du côté de la démocratie en Turquie.
L'opposition en Turquie, de Dorothée Schmidt, sans être anéantie, a été en tout cas considérablement affaiblie et serait quand même en mesure aujourd'hui de proposer une alternative au pouvoir de l'AKP?
Je pense que ce qui est terrible, c'est qu'en fait, si on fait le bilan de la bientôt quinzaine d'années d'AKP au pouvoir, on n'a jamais eu une opposition qui a fait son travail d'opposition. C'est-à-dire que les vraies oppositions au pouvoir, elles sont venues dans la rue, au moment de Gezi, ou elles sont venues du PKK à l'Est.
Mais alors, Gezi, il faut rappeler, c'était un projet immobilier à Istanbul.
Voilà, d'énormes mobilisations contre un projet immobilier à Istanbul qui ont débouché sur une contestation du pouvoir et
de la Turquie, dans ce
voilà,
cas,
dans après, l'ensemble de la Turquie, d'une dérive autoritaire et religieuse du pouvoir, qui a été considéré comme un mini moment de révolution libérale, mais bon, c'est totalement éteint à l'heure actuelle. Et effectivement, les partis d'opposition n'ont jamais tellement fait leur job et maintenant ne peuvent plus le faire. C'est ça qui est terrible, c'est que même le CHP est maintenant sous le coup d'un procès pour insulte au au président de la République. Donc je pense que également les députés du Parti républicain du peuple doivent se demander ce qui va leur arriver demain.
Sont et menacés,
après
oui.
voilà, après oui, avoir oui. vu emmener les députés kurdes dont le sort était en suspens depuis plusieurs mois, se disent que finalement il peut leur arriver la même chose à un moment ou à un autre.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Démocratie turque, fin de cycle, c'est la question que nous posons ce soir dans Du Grain à Moudre à Dorothée Schmidt, à Ahmet İnsel et à Marc Pierini. Avant de vous redonner la parole, Marc Pierini, je rappelle que vous êtes à Bruxelles. Je voudrais qu'on remonte quelques années en arrière, pas si longtemps que ça. Ce sont les législatives turques en 2002 qui vont voir la victoire inattendu, en tout cas inattendu peut-être pour les observateurs occidentaux européens, de l'AKP.
Drapeau en guise de tchador et lunettes noires, c'est le nouveau visage de l'ancien Parti de la Vertu, une formation islamiste interdite il y a 2 ans pour son radicalisme. Ce sont eux qui viennent de gagner les élections sous un nouveau nom, l'AK, le Parti de la Justice et du Développement. Leur leader, Tayyip Erdogan, personnage charismatique, déclaré inéligible pour incitation à la haine religieuse. En 1997, il déclarait « Les minarets sont nos baïonnettes et les mosquées nos casernes ». Aujourd'hui, l'homme affirme avoir changé. Nous soutenons les valeurs de la démocratie, dit-il, celles des droits de l'homme et du respect de chacun. Fini les références au Coran, les islamistes New Look se disent pro-européens, pro-FMI et ne remettent pas en cause la présence de l'OTAN en Turquie, seul pays musulman membre de l'Alliance. Un changement de ton trop brusque pour les observateurs indépendants.
Ils sont très dangereux pour la Turquie. Ils ne peuvent même pas avouer qu'ils sont un parti religieux. Personne ne peut savoir ce qu'ils vont faire maintenant.
Voilà, extrait d'un reportage diffusé dans le journal télévisé de France 2 en novembre 2002, donc après la victoire de l'AKP aux législatives. Marc Pierini, est-ce qu'à ce moment-là, et disons dans les mois qui ont suivi, l'AKP et Erdogan sont sincères quand ils disent vouloir faire des réformes démocratiques, se rapprocher de l'Union européenne, essayer d'accélérer un petit peu le processus d'adhésion, ou bien est-ce que l'Europe s'est peut-être un petit peu voilé la face en refusant de voir la menace que représentaient véritablement ces islamistes qu'on appelait modérés à l'époque?
Alors, sincère, difficile à dire, mais en tout cas, ils jouent le jeu. C'est-à-dire qu'entre la fin 2002 et la fin 2004, quand le Conseil européen décide d'ouvrir les négociations avec la Turquie sur l'adhésion, qui seront ouvertes en octobre 2005, le pouvoir, le gouvernement AKP prend une série de mesures, dont évidemment la plus symbolique est l'élimination de la peine de mort qui était dans la Constitution. Donc, on fait l'effort de se rapprocher des normes et des standards européens. Et une fois la négociation lancée, 2005, il y a toute une série de réformes, il y en a des dizaines et des dizaines, donc on ne va pas les citer ici, mais qui sont de nature technique et d'autres de nature politique. Je vous citerai un microscopique exemple. J'ai géré pendant mes 5 années à Ankara un projet qui consistait à faire un jumelage entre les équivalents de la gendarmerie turque, les gardes civils espagnols, les carabiniers italiens, d'autres experts, pour introduire dans les procédures de la gendarmerie turque, qui s'appelle gendarmerie, les éléments de droit de l'homme, c'est-à-dire pour les arrestations, pour les perquisitions, pour les interrogatoires. Donc tout cela a été fait et a été fait avec beaucoup de sérieux. Et ça a été fait dans toutes sortes de domaines. J'ai géré en permanence 300-350 projets de ce type-là qui visaient à réformer la Turquie de l'intérieur. Quand est-ce que nous avons basculé? Bon, il n'y a pas une seule date, à mon avis. Il y a plusieurs dates. On peut commencer en 2011 avec l'élimination dans les élections législatives des candidats AKP les plus modérés, et puis les événements de Gezi 2013, et puis les allégations de corruption en décembre 2013, etc., etc. Mais il y a, et là, il y a eu véritablement un mouvement de renforcement du pouvoir personnel du Premier ministre à l'époque, puis du président de la République à partir d'août 2014. Mais au début, il faut bien voir qu'il y a eu une Turquie qui jouait le jeu. Ça s'est compliqué, bien sûr, très vite, à partir de mai 2007, avec la présidence de Nicolas Sarkozy en France, qui, lui, ne voulait pas jouer le jeu et dénonçait en permanence la légitimité de cette négociation, qui était pourtant décidée par le Conseil européen, et qui, même ouvertement, avec la chancelière allemande à l'époque, proposait une alternative, c'est-à-dire un partenariat, que la Turquie n'a jamais d'ailleurs discuté avec ni la France ni l'Allemagne.
Alors sans rendre évidemment l'Union européenne entièrement responsable de cette bascule dans la façon d'exercer le pouvoir qui est celle de Recep Tayyip Erdogan, Dorothée Schmidt, est-ce qu'on peut dire en tout cas qu'il y a une part de responsabilité dans le fait que l'Union européenne, tout en ayant ouvert des négociations, n'a jamais vraiment voulu avancer pour intégrer la Turquie et qu'au bout d'un moment, bah voilà, la Turquie s'est dit on va aller voir ailleurs et les efforts que nous faisons sont inutiles parce que de toute manière, ils n'aboutiront pas.
Alors là, je serais peut-être en désaccord avec mes deux co-débatteurs. Moi, je récuse totalement la responsabilité de l'Union européenne dans ce processus. Je crois que quand la Turquie s'engage dans la procédure de négociation, elle n'est pas prête pour ça. Je pense que le gouvernement turc n'a pas saisi vraiment ce que signifiait l'adhésion et ce que signifiait le fait d'avoir une stratégie d'adhésion. Je pense que du point de vue technique, le jeu a été joué. Mais effectivement, il y a eu ce problème politique qui était le blocage organisé par Nicolas Sarkozy d'un certain nombre de chapitres sur lesquels il aurait mieux fallu essayer de tester effectivement ce gouvernement, notamment les chapitres techniques de la négociation d'adhésion, parce que là on aurait compris si effectivement les réformes étaient vraiment possibles. Et puis on a un autre niveau politique qui est très important, qui est de voir que depuis le début, les opinions publiques européennes sont très majoritairement hostiles à l'adhésion de la Turquie. Ce n'était pas le cas des gouvernements. Les gouvernements étaient dans leur grande majorité en faveur de l'adhésion. Nicolas Sarkozy était plutôt une exception. Angela Merkel était le swing state, si je peux me permettre, dans le contexte américain, cette métaphore. Elle était coincée par sa coalition, mais plutôt elle-même en défaveur de l'adhésion de la Turquie. Donc on a un niveau politique qui est défavorable à la Turquie. Mais qu'est-ce qui empêche les Turcs d'essayer de convaincre les Européens qu'ils adhèrent à l'Union européenne?
Or, il se trouve que l'opinion publique turque n'est plus très favorable.
L'opinion publique turque était très favorable au départ, elle ne l'est plus aujourd'hui. Mais quand on voit le niveau d'insultes auquel aujourd'hui parviennent les autorités turques à l'égard des institutions européennes, je crois que là, on a quand même un très grave problème.
Je crois que c'est fini. Ahmet Itsel. Je crois que c'est fini, vous disiez?
Oui, je crois que c'est fini.
Il y a eu juste, je vous laisse la parole, mais il y a eu hier justement la publication d'un nouveau rapport d'étape. Il y a régulièrement des rapports d'étape sur le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Et le commissaire à l'élargissement, qui s'appelle Johannes Hahn, a dit « Il est temps qu'Ankara nous dise ce qu'elle veut vraiment. C'est un test de sa crédibilité et de celle de l'Union européenne. Enfin, » On sait ce qu'elle veut vraiment, la Turquie, aujourd'hui,
non ? Erdogan a répondu immédiatement, il est temps que l'Union européenne décide ce qu'il veut faire et qu'on en finisse si nécessairement. Nous sommes dans un jeu où les deux parties ne veulent pas être celui qui va dire finalement non. Hein, donc on est dans un jeu comme ça qui va durer longtemps.
Hein. On sait que c'est terminé, mais on ne veut pas assumer le rôle de celui qui dira c'est fini.
Exactement. Là, ça va durer pendant un bout de temps. Par contre, je suis moitié d'accord avec Dorothée Schmidt parce que il y a des pays qui étaient pas prêts comme ça. Prenons la Bulgarie et la Roumanie. Ils étaient pas particulièrement prêts. Les négociations ont été mal faites et après les Européens se sont mordus les doigts en disant mais comment on va sortir par exemple sur la question de la corruption, etc. Dans le cas de la Turquie, il y a effectivement un problème où il y a eu mal donné au départ. Avant même Nicolas Sarkozy, il y a eu un mal donné au départ à cause du problème chypriote. La Turquie avait accepté dans un premier temps de reconnaître officieusement d'une certaine manière la République de Chypre, qui est membre de l'Union européenne, ouvrir ses ports et ses aéroports aux avions et aux bateaux, c'était dans la lettre, et in fine, non. Et à partir de 2006, face à ça, la République de Chypre a demandé le blocage de 10 chapitres, parmi lesquels les plus importants qui nous intéressent aujourd'hui, droit, justice, etc., les libertés fondamentales, qui, depuis 2006, c'est les chapitres qui sont les plus importants, sont bloqués à cause de la demande de Chypre. Et la Turquie a, effectivement, à partir de ce moment-là, c'était une situation un peu ambivalente. On veut entrer dans l'Union européenne et on ne reconnaît pas un pays membre de l'Union européenne. Déjà, la maldonne était faite. Mais là aussi, le problème, c'est que reconnaissons que Tayyip Erdogan avait cassé un tabou au départ. Quand il y a eu le débat sur la question chypriote, avait changé fondamentalement la position de la Turquie. Mais malheureusement, lors du plan Annan, les chypriotes avaient voté non, alors que les chypriotes turcs avaient voté oui. Mais maintenant, Maintenant, le problème, c'est que cette histoire de l'Union européenne, pour Tayyip Erdogan, est du pain béni. Du pain béni parce qu'il permet chaque fois de dire, vous voyez, les Européennes, ce sont des gens qui ne tiennent pas leur parole, surtout parce que nous sommes musulmans, quand il s'agit de la Turquie, etc., y compris cet accord entre l'Union européenne et la Turquie concernant les réfugiés syriens, la gestion des réfugiés syriens contre suppression de visa pour les Turcs. Nous savions dès le départ que les pays d'Union européenne et la France en tête, si la Turquie remplissait toutes les conditions, n'ouvraient pas la libre circulation pour les touristes turcs. Donc
comment?
Ah, Dorothée Schmidt, non?
Enfin, je sais pas, ça je... Si. Moi, je suis pas sûr, enfin, demandons l'avis de Marc sur cette question, parce qu'il doit travailler plus là-dessus.
Mais... Marc Pierini.
Oui, moi je dirais qu'il faut pas trop reconstruire l'histoire de l'adhésion, mais ce qui est important, à part l'argument de Chypre, c'est que graduellement, 2010, 2011, 2012, on a vu apparaître les exigences de l'Union européenne, les exigences normales qui sont connues de tous les candidats à l'adhésion, qu'ils soient des critères politiques ou les critères techniques, on a vu que ça représentait graduellement de plus en plus d'obstacles à l'exercice du pouvoir par l'AKP. Et là, il s'agit bien sûr de la liberté de la presse, de l'indépendance de la justice, et on le voit tous les jours aujourd'hui, mais c'est aussi des choses beaucoup plus techniques, comme par exemple la politique des marchés publics, parce que les marchés publics, en Turquie, comme d'ailleurs dans d'autres pays, c'est un instrument politique de première importance. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, le problème n'est plus tellement là. Comme a dit Ahmet Tinsel, la négociation, elle est embourbée, elle n'ira pas loin. Il ne s'agit pas de la déclarer morte, parce que personne ne va vouloir le faire, ni d'un côté ou de l'autre. Les politiciens n'aiment pas l'échec, mais en plus, il y a beaucoup d'autres intérêts derrière. Donc, ce qu'il faut faire absolument aujourd'hui, quand on voit ces échanges d'insultes depuis quelques jours, notamment avec l'Allemagne, depuis hier avec la Commission européenne, c'est de garder les canaux de communication ouverts entre les gens qui ont quand même envie de se parler dans une sorte de respect mutuel minimum.
Est-ce que ça peut inciter Marc Pierini, la Turquie, aujourd'hui, à regarder aussi un petit peu ailleurs? Est-ce qu'il pourrait aussi expliquer donc les propos que tenait ce matin Tayyip Erdogan à propos donc de ces frontières physiques qui ne sont pas les mêmes que les frontières de cœur. Donc je rappelle, hein, il parle de nos frères de Crimée, du Caucase, d'Alep, de Mossoul. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que au-delà des liens qui peuvent exister entre la Turquie et certains habitants de ces territoires, et peut-être de la nécessité pour la Turquie d'être impliquée dans les décisions qui y sont prises, est-ce que ça peut aussi vouloir dire qu'il peut y avoir des velléités d'expansion géographique de la part de la Turquie?
Il y a deux arguments différents là dans ce que vous dites. Le premier, c'est l'évocation d'un passé glorieux. Ça, c'est l'argument nationaliste pour rassembler les voix en vue du référendum. Ça n'a rien à voir avec la politique étrangère de la Turquie, ou en tout cas pas grand-chose. L'autre argument, c'est la Turquie a-t-elle des alternatives à ses liens sécuritaires avec les États-Unis et l'OTAN et à ses liens économiques, exportation, investissement, tourisme, avec l'Union européenne? La réalité, c'est que au jour d'aujourd'hui, elle n'en a pas et elle le sait très bien. Regardez comment, depuis hier, le pouvoir turc s'acharne à dépeindre l'élection de Donald Trump comme une bonne chose pour la Turquie. Personne n'en sait rien, mais ils veulent surtout pas que le discours anti-musulman de Trump prenne le dessus, et ils veulent au contraire essayer de reconstruire une relation en partant de l'hypothèse que M. Trump sera moins exigeant sur les droits et les valeurs que M. Obama. On verra bien.
Donc, fin de cycle, en tout cas, on pourrait dire, Dorothée Schmidt, s'agissant du processus d'adhésion à l'Union européenne, mais pas forcément fin de cycle dans l'orientation stratégique, disons, de la Turquie, qui reste quand même tournée du côté de l'Europe et des États-Unis, puisque membre de l'OTAN.
Ce que je trouve très intéressant dans l'interprétation qu'a fait Marc de l'évolution de la question de l'adhésion, c'est l'idée que à partir du moment où ça gêne l'AKP ou le pouvoir personnel de Tayyip Erdogan, effectivement la procédure d'adhésion déraille. Ça signifie que il faut quand même pas oublier qu'on doit différencier la Turquie de son régime et la Turquie de son dirigeant. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, le dirigeant s'est approprié les institutions et qu'il est en train de les retailler, de les transformer, et que du coup, on a peur qu'à l'avenir, le pays soit un pays avec lequel on n'arrive plus à s'entendre, parce que ça ne sera plus l'État turc dans sa permanence, disons, qu'on connaissait depuis la fondation de la République. Mais il n'y a pas de raison que la Turquie ne change pas d'option politique à partir du moment où elle change de dirigeant. C'est arrivé dans d'autres pays. Non.
Après Erdogan. Oui.
Oui, voilà. C'est arrivé quand même à d'autres pays. Aujourd'hui, on s'interroge sur l'avenir des États-Unis après Trump. On peut s'interroger sur ce qui se passerait le jour où Erdogan lâchera le pouvoir.
Erdogan qui pourvoit, Mehmet İnsel, incarner le rêve démocratique, qui est, je rappelle le sous-titre de votre livre, La Nouvelle Turquie d'Erdogan. Vous l'avez écrit en 2015, du rêve démocratique à la dérive autoritaire. Le rêve démocratique, ça faisait partie aussi de ce qu'on attendait.
Une démocratie conservatrice, évidemment. C'était une démocratie que j'aimais bien, de gauche fondamentalement, mais une démocratie conservatrice, une sorte de normalisation comme une sorte de démocratie chrétienne au pouvoir en Turquie. Parce qu'il représente quand même Tayyip Erdogan, malheureusement, systématiquement, une majorité sociologique dans le pays. Il y a dans l'affrontement entre les Turcs et les Kurdes, il représente les Turcs. Dans l'affrontement des sunnites et alévites, il représente les sunnites. Dans l'affrontement des conservateurs contre les modernistes, il représente les conservateurs. Et chacun de ces groupes, sunnites 80%, turcs 85% ou 80%, les conservateurs 65-70%. Il est toujours du côté de la majorité sociologique. Donc du coup, le jeu électoral est favorable d'emblée pour lui. Effectivement, par contre, si Erdogan se retirait de la vie politique d'une certaine manière, ou si l'AKP éclatait en deux branches, là, les choses pourraient aller différemment. Mais le problème, c'est que plus Erdogan s'installe dans le pouvoir, plus Erdogan est en train de formater les institutions et surtout l'éducation. Et nous avons vu le formatage kémaliste. Ils ont des années et des années pour pouvoir supprimer les effets du formatage kémaliste. Le formatage nouveau est encore peut-être récent, mais si ça continue encore 5 ans, je ne suis sûr qu'encore nous allons avoir des conséquences pendant 20-30 ans de ce formatage islamo-conservateur. Tayyip Erdogan dit ouvertement « je vais former des générations pieuses ». Tayyip Erdogan dit ouvertement « je veux que la Turquie devienne une république ». Une république qui est totalement en phase avec la majorité sociologique de ce pays. Qu'est-ce que c'est la majorité sociologique de ce pays ? Sunnite, turc, conservateur.
Et alors que peuvent les partenaires de la Turquie, notamment les partenaires européens, pour tenter peut-être de réorienter justement la façon de diriger le pays tant qu'Erdogan est au pouvoir? Il y a un sérieux retour en arrière au cours de l'année passée dans le domaine de la liberté d'expression. Ça, c'est ce qui figure dans le rapport d'étape qui a été publié hier par l'Union européenne. Est-ce que c'est le maximum que l'Europe peut faire aujourd'hui, Marc Pierini?
Je dirais, comme tout à l'heure, gardons les canaux de communication ouverts avec ceux qui le veulent bien, restons définitivement, fermement accrochés aux valeurs et aux droits qui fondent l'Union européenne, parce que il faut pas quand même abandonner les démocrates turcs au passage. Et ensuite, il
Mais
faut
ça veut dire
réagir.
Quoi, ne pas les abandonner?
Aujourd'hui, si vous êtes un démocrate turc qui vit en Turquie, vous n'avez plus grand-chose à quoi vous raccrocher. Le Parti social-démocrate, Ahmet l'a dit, c'est 25% tout au mieux, et l'Union européenne ne semble plus compter pour beaucoup. Il faut quand même être présent, il faut corriger la distorsion de l'information sur l'Union européenne, sur les réfugiés syriens, sur la réaction au coup d'État, etc., etc. Et puis, il faut aussi faire remarquer que la dégradation de l'État de droit, c'est aussi la dégradation du climat des affaires. Or, aujourd'hui, la Turquie est dans une union douanière avec l'Union européenne. Vous avez des firmes comme Renault, Ford, Fiat, Siemens, Bosch, etc., qui ont une base de production considérable en Turquie et qui est complètement intégrée à l'Europe. Donc, si l'État de droit, si la justice économique, si des troubles civils, si tout ça va mal, c'est aussi très mauvais pour l'Europe et on a un droit et un devoir de le faire remarquer.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Dorothée Schmidt, Marc Pierini et Ahmet İnsel. Les références bibliographiques de vos ouvrages respectifs, vous pourrez les retrouver comme chaque jour sur notre site franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Un grand merci à toute l'équipe du Grain. Merci tout particulier à Mathilde Barbier, mais également à Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Cyril Baer, Isolde Sicard, émission réalisée par Jean-Christophe Francis, avec à la prise de son Anthony Thomasson. Demain, ce sera comme chaque vendredi le Club des idées du grain avec cette question. Peut-on gagner et gouverner sans démagogie? Nous reparlerons possiblement de la Turquie, mais aussi des États-Unis et pourquoi pas de la politique française. Et oui, il y a aussi de la démagogie dans la campagne actuelle.